Il s'appelle Raphaël Samuel, il a 27 ans, son histoire est racontée par la BBC. Raphaël vit à Bombay, en Inde, il fait des affaires. Il y a un an, il a décidé de porter plainte contre ses parents pour l'avoir mis au monde sans son consentement. Il considère que mettre au monde un enfant, c'est commettre une injustice comparable à l'esclavage ou à un kidnapping. Il juge les parents hypocrites, égoïstes, irresponsables. Dit qu'ils ne font des enfants que pour se divertir, à leur dépens. Ce n'est pas tant que Raphaël ait été mal élevé ou pas aimé, ni que sa vie soit si difficile. Il dit que sa vie est comme une chambre qui est belle, mais vous n'avez juste pas envie d'y entrer. Sa posture est surtout théorique. Raphaël est antinataliste, persuadé que la vie est si pleine de difficultés qu'il faudrait arrêter tout de suite de procréer. La planète d'ailleurs s'en porterait beaucoup mieux. Si l'humanité disparaît, la Terre et les animaux n'en seront que plus heureux, pense-t-il. Sa manière de voir rappelle un peu celle de l'inconvénient d'être né de Schopenhauer dans une version greenwashée. Et c'est ainsi qu'un matin, au petit déjeuner, il a donc annoncé à son père qu'il l'attaquait en justice et demandait des dommages et intérêts pour le reste de sa vie. Ce dernier a plutôt bien réagi et commenté à la BBC « J'admire la témérité de mon fils qui a fait un procès à ses parents, sachant qu'ils sont tous les deux avocats. » Si Raphaël réussit à nous expliquer rationnellement comment on aurait pu lui demander son consentement avant sa naissance, alors je reconnaîtrai ma culpabilité, a-t-il admis en souriant tout en promettant d'être sans pitié au tribunal. Pour l'heure, Raphaël n'a pas trouvé d'avocat, sa procédure est en cours, mais elle n'a guère altéré ses relations avec ses parents, qui sont, dit-il, excellentes. Tout de suite dans les pieds sur terre, ce sont deux autres histoires sur la place du père et le risque de naître, celui qu'on court aussi de leur en vouloir à vie à nos parents. Et ce sont deux récits d'Alice Milot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Romain Beyris, j'ai 22 ans. Alors, j'habite dans un petit village à Soupros, dans les Landes, dans le 40. Et donc, le 17 février, mon père me propose une battue au chevreuil à Urgons. Donc, on arrive au rendez-vous de chasse. On est une 25-30 personnes. Le président, donc le chef de la commune, nous dit ce qu'on doit tirer. Donc là, c'était le chevreuil, on le tire au plomb. Alors le concept, c'est que le chef de ligne nous place à un endroit précis où on ne doit pas bouger. Donc nous, tireurs, on se poste autour du bois. Puis il y a des traqueurs, des gens qui sont dans le bois avec des chiens. Et les chiens prennent le pied de l'animal. Ils sont en train de poursuivre l'animal pour qu'il sorte du bois pour que les tireurs puissent tirer l'animal. Et nous avons aussi une règle de sécurité de tir. On a un angle à respecter, c'est l'angle des 30 degrés. C'est un angle où il ne peut pas avoir de danger. C'est un angle préventif pour pouvoir tirer l'animal. Le terrain était un peu vallonné, donc moi j'étais placé sur un chemin en milieu de bois, donc entre le point haut et le point bas. Et mon père se met sur le point haut, à 15 mètres à ma gauche. Donc nous sommes postés, la battue commence, les traqueurs sont dans le bois avec les chiens. J'entends les chiens arriver vers ma direction et je vois deux chevreuils arriver. Ils sont arrivés à ma distance où le chef de ligne m'a dit « tu peux tirer devant ». Donc je le tire à 3 mètres. Je le blesse, je lui coupe le train arrière. Tant de mal que le bien, il essaye de repartir dans le bois. Et je le vois qui fait une boucle devant moi et monte dans le champ du côté de mon père. Mais c'était dangereux, moi j'étais juste derrière le chevreuil, je l'avais à 5 mètres à ma gauche. Et mon père, je ne savais pas trop où il était, s'il était à 20 mètres ou à 30 mètres. J'ai dit tire pas, et là j'ai entendu le décochement de la gâchette et je me suis senti projeté et j'ai pas cherché si le chevreuil était mort, mais moi en tout cas j'étais à terre. Je me sens projeté sur 3 mètres en arrière avec mon arme chargée qui tombe à côté de moi. Honnêtement, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me regarde, j'étais crépit de sang, ça coulait de partout. Alors le premier réflexe que j'ai eu, parce que j'avais la vision trouble, je prends mon portable et je me regarde avec le téléphone. J'ai dit, ah mince, j'ai un œil de crevé. Je vois le liquide de l'œil sortir et puis du sang en geyser. Et je commençais à tomber dans les pommes, donc je crie comme ça à mon père, tu m'as tiré dessus, il m'a pas entendu. Et je suis resté bien 5 minutes par terre, essayer de voir ce que j'avais. Et puis j'ai essayé de quitter la ligne en rampant vers la voiture, car on l'avait à 20 mètres derrière la voiture. Il fallait que je remonte le chemin pour qu'il puisse m'entendre. Et puis quand il a vu mon état, il m'a dit « Oh mais c'est pas vrai, bon mais ça t'apprendra », il me fait comme ça sur le coup de la colère, je pense. Ah, ça m'a fait très mal au cœur. Sur le coup, je me suis dit « Il a fait exprès, c'est pas possible ». Donc moi j'étais choqué et en colère. C'est une faute de débutant d'avoir fait ça. Et quand je suis monté dans la voiture et qu'on a commencé à reprendre la route, là il a commencé à me regarder et a dit po, il fait comme ça, po, il commence à souffler. Pas du tout, il a soufflé, mais pas du tout inquiet. Il a dit, je lui fais comme ça, bon, tu m'amènes à l'hôpital. Il me fait non, je t'amène pas à l'hôpital, on s'arrête chez mamie pour t'éponger le visage parce qu'ils sont pas capables de t'éponger le visage. Donc on s'est arrêté chez ma grand-mère pour qu'il m'éponge le visage. Et là, je sentais que le cœur se fatiguait et je commençais à tomber. Et, je me sentais la mort arriver. Ma grand-mère est là, mais elle a vu de suite que ça allait pas. Je tremblais, j'étais tout blanc, je sentais plus ma force. Donc ma grand-mère, elle a dit à mon père, « Non, mais amène-le à l'hôpital de suite, car ça va pas. » Après, j'ai pas trop entendu, car... Je commençais à être un peu à l'ouest, donc je sais que ma grand-mère a réagi de suite. Je pense qu'il y aurait eu 5 minutes de trop, je pense pas que je serais là en train de parler. Moi, depuis tout petit, quand je rentrais de l'école, la première chose que je pensais, c'était que quand je passais la porte de la maison, je me suis dit « c'est bon, j'arrive en prison ». C'est un homme violent, mon père, car il frappait ma mère, il me frappait à moi, il frappait mon demi-frère aussi, du côté de ma mère. Donc, quand il avait une idée, c'était fallait le suivre, c'est comme ça. Si on le suivait pas, il devenait violent. Il allait faire des coups à droite à gauche, il allait voler, tout ça. Donc, moi, j'étais obligé de suivre la cadence. Quand il y avait quelque chose qui l'intéressait, mon père allait voler. Quand il se promène en voiture, il voyait, je prends un exemple, des bordures ou des plaques de marbre chez des personnes au bord du portail. Quand il voit ça, il dit « Bon, hey, Romain, à 2h du matin, on part là voler le marbre. Pourquoi ?» Il va le voler, mais ça lui fait plaisir, mais il va pas... Je pense pas que c'était pour l'argent. Il revendait pas, il gardait tout. Et ça devait vraiment une usine à ordures à la maison, à force. On est à 10 minutes des urgences. Mais dans la voiture, je suis tombé carrément. Et moi, dans la tête, là, je me voyais les deux grandes portes blanches là, du ciel... Je me rappelle quand on m'a mis la perfusion, tout ça, enfin, j'ai senti. Et j'ai été transporté à l'hôpital de Bordeaux, l'hôpital de Pellegrin, pour pouvoir essayer de me récupérer. Il y a eu une première opération pour suturer les impacts de plomb. Dans la cartouche que mon père a tirée, il y avait 81 plombs, j'en ai pris 25, dans le visage et sur le poitrail. Donc j'ai perdu la vue d'un œil et j'ai failli perdre l'autre d'une fraction de millimètre. Et j'ai failli aussi perdre la vie car il y a un plomb qui m'est passé en millimètre de la carotide. Donc c'est peut-être celui-là qui m'a sauvé la vie. Et aussi sur l'accident, il y avait un arbre qui m'a sauvé la vie car il aurait pu me toucher les organes vitaux. Et là, on me dit, bon, mais monsieur Beiris, il sera impossible de vous récupérer l'œil, car vous avez le nerf optique cassé, vous avez tout qui est cassé, il n'y a rien d'autre à faire. J'avais le moral à zéro, mais bon, c'est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Donc mon père est venu me voir deux jours après, mais pas du tout inquiet de mon état de santé. Ma mère est restée pendant 3 semaines à l'hôpital, et elle a dormi dans ma chambre, tout ça. 15 jours après, toujours au mois de février, fin février, j'ai été appelé par les gendarmes de Jaune, la commune à côté, car il y a eu reconstitution de l'accident. Donc, les gendarmes m'ont dit « dites-moi où vous étiez, ce que vous avez fait, tout ça ». Donc j'ai dit là où j'étais, tout ça, là où j'ai tiré, pour essayer de voir s'il y a des impacts, tout ça, de mon premier tir. Bon, ils n'en ont pas trouvé. Puis après, dire là où était mon père. Alors je disais qu'il était à peu près à ma gauche, là, vers 30-40 mètres. Et j'ai appris que mon père m'avait dit qu'il était là-bas, à 20-30 mètres. La première reconstitution, il y avait une taupe, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait un menteur d'un camp. Mon père avait dit qu'il était à 60 mètres, mais en fait, on a regardé, la cartouche, elle était à 10 mètres de moi. Donc, en fait, j'ai reçu un tir au lieu de 60 mètres, comme il a dit mon père, j'ai reçu un tir à 10 mètres, c'est-à-dire à courte portée. Et en réfléchissant, j'ai eu beaucoup de chance, car une magnum, ça a beaucoup de puissance et beaucoup de plomb. Et ça pouvait me transpercer. J'ai eu la chance, et sur les 25, il n'y en a aucun qui m'ait transpercé le visage ou le poitrail, car le moindre plomb qui me traverse, je finissais dans un cercueil. Donc en fait, c'était mon père qui avait menti sur sa position. Alors j'ai porté plainte pour que justice soit faite pour les dégâts qu'il a fait sur moi. Car je pense que je ne méritais pas ça, et malgré que ce soit un accident involontaire, j'aurais préféré vivre avec les deux yeux qu'avec un. Donc oui, quand il a su que j'avais porté plainte, il m'avait appelé quand je travaillais, c'était en mercredi. Je vois que c'est mon père qui m'appelle sur le téléphone, donc je réponds, allô. Ouais, alors comme ça t'as porté plainte, même pas bonjour ni rien, alors comme ça t'as porté plainte, mais tu vas voir, tu vas le regretter d'avoir porté plainte, je vais le gagner, moi ce procès, tu vas comprendre, comme c'était un challenge entre lui et moi pour savoir qui c'est qui va gagner. Et moi je voulais juste qu'il soit puni pour les dégâts qu'il m'a fait, et voilà, bon mais... Ça n'est resté là, et puis je lui ai pas. Il a essayé de m'appeler 2 ou 3 fois, j'ai pas répondu. Donc voilà, c'était un peu chaud quand il a su que j'avais porté plainte. Le procès a eu lieu en juillet 2017. Mon père a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 200 euros d'amende pour le non-respect des consignes de sécurité et 5 ans de retrait de permis de chasse. Donc il sera obligé de le repasser, mais il ne pourra pas chasser pendant 5 ans. Au bout de 2 ans, mon père s'est enfin excusé. J'étais chez ma grand-mère et je pensais pas qu'il allait arriver. Il me fait la bise et au bout d'un moment, il me dit « Romain, tu peux venir dehors avec moi ?» D'accord, bon, mais je le suis. Et là, il a commencé à faire son petit speech. Il a dit « Oui, je reconnais que j'ai fait une erreur, je suis désolé. » Alors moi je lui réponds, mais quand même au bout de 2 ans, tu t'excuses et t'arrêtais pas de me baver dessus derrière moi, oui, mais tu comprends Romain, oui. Enfin oui, c'est facile de dire tu comprends, mais il faut assumer dès le départ. Et... Honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid, car au bout de 2 ans, enfin, ça se... c'est pas normal au bout de 2 ans de pouvoir s'excuser avec une faute aussi grave. Pour moi, les excuses sont arrivées trop tard.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Jérôme, j'ai 65 ans. Je suis le 5e enfant d'une famille de 7 enfants. Ma mère était d'une famille originaire de Reims depuis plusieurs générations. Mon père, par contre, lui, venait du Périgord. Du côté de ma mère, c'était la bonne bourgeoisie rémoise, on va dire. Du côté de mon père, c'est beaucoup plus confus. Mon père était né à Sarlat, donc vraiment au cœur du Périgord. Son propre père tenait une pharmacie qui devait être probablement la plus belle pharmacie de la ville. Et sa mère, donc ma grand-mère paternelle, était d'un milieu qu'on va qualifier de para-aristocratique. Mes grands-parents faisaient partie des Croix de Feu. C'est un mouvement d'extrême droite, passablement antisémite, relativement fasciste, on va dire. Et l'histoire dit qu'il a dilapidé son bien, sa fortune, s'il en avait une, dans ses mouvements politiques. Toujours est-il que la pharmacie a fait faillite et ils ont été obligés de partir et de s'installer en région parisienne à Brunois. Ensuite, mon grand-père est mort de ce qu'on appelait une angine de poitrine à l'époque, en 1936-37, je crois. Toujours est-il qu'il n'a pas fait d'études, il n'avait pas de diplôme. Donc je suppose qu'il est venu s'installer à Reims parce que la famille de ma mère y était implantée, ils avaient des relations, etc. Et c'est comme ça qu'il a trouvé un emploi de commercial. Donc comme je l'ai dit, nous étions 7 enfants. Ensuite donc ma sœur, ensuite mon frère et moi. Je suis donc arrivé le 5e. Mais quand je suis né, mes frères aînés avaient à peine 5 ans, c'est vous dire. Donc mes parents n'avaient pas de gros moyens, donc ils se débrouillaient. Mais enfin, moi, j'ai un souvenir de mon enfance vraiment heureux. D'ailleurs, il y a des souvenirs anecdotiques assez rigolos. C'est que mon père, à une époque, avait une Peugeot 403 familiale, donc avec des strapontins, et on s'entassait tous là-dedans pour partir en vacances. Et les deux plus jeunes étaient à l'avant, carrément sur les genoux de ma mère et peut-être la tête sur les genoux de mon père en train de conduire. Bon, tout ça s'est finalement quand même bien passé. C'est plutôt des bons souvenirs. Et puis, après, les choses ont tourné de façon beaucoup plus difficile parce qu'il y a eu la crise. Donc, il a subi de très longues périodes de chômage qui ont été très, très, très pénibles. Et je ne sais pas si c'est à cette époque-là, mais peut-être un peu avant. J'avais une dizaine d'années, peut-être. Notre père nous avait dit, plus ou moins, qu'il avait eu des ennuis à la Libération. Il y a notamment une anecdote dont je me souviens très bien, c'est que le général de Gaulle était venu faire une visite à Reims. C'était l'époque où de la grande réconciliation franco-allemande avec le chancelier Adenauer. Et donc ça a donné lieu à toutes sortes de festivités, et notamment un convoi qui passait sous les fenêtres de l'appartement où nous vivions. Et mon père nous avait dit « je peux pas me manifester » ou on avait compris qu'il y avait un problème. Et en fait, ce problème, c'était qu'il était, on peut pas dire fiché, parce que je pense pas que ça existait à l'époque, mais c'était un petit peu ça, politiquement. Ah. Je me souviens pas précisément de déclarations ou de faits ou de par lesquels on a appris cette histoire. Vraiment, je sais pas. C'est assez étrange. Il en parlait quasiment pas. La seule chose dont je me souviens de façon assez précise, c'est la prison à Fresnes. Et le fait que il avait eu cette condamnation dont je ne connaissais pas vraiment la nature, mais je sentais que c'était quand même quelque chose d'assez prégnant et assez contraignant, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais cherché à en savoir plus quand on a appris ça. Moi, bon, à 10 ans, ça m'intéressait pas énormément, mais enfin, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et puis, en décembre 89. J'étais jeune marié, j'avais déjà mes deux premiers enfants très jeunes. Mon père est mort brutalement d'une rupture d'anévrisme. Il rentrait de promenade, il a mis la clé dans la porte et il s'est effondré. Voilà. Donc pour son entourage, ça a été extrêmement violent. Pour ma mère, pour mes frères, pour moi. Et je pense que ça a été un élément déclenchant de mon questionnement et de mes recherches sur toute cette histoire passée de mon père. Parce que j'ai regretté énormément de jamais avoir abordé ces questions-là avec lui, de façon précise. Et ça reste quelque chose de troublant, en tout cas, et qui m'interroge beaucoup. Alors, c'est ma femme qui m'a poussé, il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses des recherches pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui est arrivé à ton père, qu'est-ce qui lui a été reproché, quelle a été la nature de sa condamnation, etc., etc. Et donc, elle est venue avec moi, et ça je lui en sais vraiment gré, aux Archives nationales. Et là, ça a été un peu un choc. Donc aux Archives, on a été très bien reçus. Et on nous a présenté un espèce de carton où il y avait plein de papiers, des courriers, des notes, des machins, etc. Donc on a fouillé un petit peu là-dedans. Et là, j'ai découvert notamment ses dépositions, les dépositions qu'il a fait parce qu'il y a eu une instruction. C'est là que j'ai appris son engagement très concret pendant la guerre, dans ce mouvement donc du parti franciste, clairement fasciste, qui au départ n'était pas particulièrement antisémite, mais qu'il est devenu. Et quel a été son rôle? Donc il a été chef de section, enfin c'était un truc, il avait une petite responsabilité locale. Et puis à un moment donné, il a voulu échapper au STO, le service de travail obligatoire qui envoyait donc les jeunes aller travailler en Allemagne. Et pour se couvrir, nous avons appris qu'il avait tenté de se faire engager comme inspecteur au commissariat aux questions juives. Alors là, on passe à une autre dimension qui est quand même beaucoup plus engagée, beaucoup plus délicate. Je suis tombé un petit peu de haut, quoi. Commissariat aux questions juives, pour les gens qui s'intéressent à cette époque-là, c'est pas rien. Hein. Ça a été vraiment une bande de salopards qui ont été dénicher les juifs chez eux pour les emmener à Drancy à la déportation. Ça, c'est clair et net. Bon, il n'a pas été engagé, mais il a quand même fait une sorte de stage pendant les deux semaines où il a postulé, on va dire. Et il doublait un collègue en exercice, aux compagnies duquel il se rendait dans les mairies, les paroisses, l'archevêché, pour vérifier la nationalité des ressortissants. Il vérifiait l'authenticité des actes de baptême. Donc c'était quand même un acte quand même très engagé dans l'antisémitisme. Ça m'a... Vraiment, ça m'a bouleversé parce que, de fait, oui, il a été un collaborateur. Jamais dans mon enfance et dans ma jeunesse, je n'ai pu soupçonner des sentiments particulièrement antisémites de la part de mon père. Jamais. Mais bon, je ne peux pas dire autre chose. Je ne sais pas quelles étaient ses convictions. Je me rassure, oui, en disant que c'est une solution qu'il avait trouvée pour échapper au STO, service travail obligatoire. Bon, c'est une maigre consolation quand même. Et ça, je pense que, à part les recherches que j'ai faites, personne ne le sait dans ma famille. Pour moi, il faut que ça sorte. Il faut que ce soit au jour. Il faut que ça ne reste pas quelque chose qui est caché. Donc, parce que si c'est caché, c'est malsain. Voilà, je pense que c'est malsain. Alors après, il s'est fait arrêter dans des drôles de conditions. Il s'est caché et puis c'est pas très très clair dans les papiers que j'ai trouvés. Il a été reconnu ou il a été dénoncé, je sais pas. Et puis donc il a été condamné, donc indignité nationale pendant 5 ans. C'est interdiction des droits civiques, c'est interdiction d'enseigner, d'occuper un poste de fonctionnaire, d'avoir des responsabilités d'une manière générale, etc. Donc c'est quand même quelque chose de non seulement d'infamant, bien sûr, mais de très contraignant. Alors maintenant, j'aimerais avoir accès aux minutes de son procès. J'aimerais bien savoir ce qui s'est dit, comment il s'est défendu, ce qui s'est passé, etc. Alors, toutes ces révélations, je pense que ça n'a en rien remis en cause l'affection, l'amour que j'ai eu pour mon père. Alors bon, il était mort, alors c'est difficile de détester un mort, quoique, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'était pas le cas. Et non, vraiment. Pourquoi ça n'a pas été jusqu'à la honte et puis le reniement et en disant « mais mon père était un salaud, quelle ordure, comment il a pu tremper dans ces trucs-là » Jamais ça m'est venu à l'esprit. Par contre, ce que cette histoire m'apprend et que je vérifie très fréquemment et qu'on a vraiment, à mon avis, beaucoup trop tendance à oublier de nos jours, c'est qu'on ne peut jamais, on ne doit jamais en tout cas faire abstraction des circonstances, des mœurs, des idées d'une époque. Alors, ça ne justifie rien, ça ne pardonne rien, mais on ne peut pas en faire abstraction. Il faut comprendre, il faut savoir, pour que l'histoire ne se répète pas dans le mauvais sens, mais c'est très difficile de juger. Voilà. Mon père, il a subi l'influence de sa famille, des idées de sa famille, de ses parents, de son père, qui était apparemment très engagé dans ces mouvements-là, est mort alors que mon père avait 17 ans, donc c'était un adolescent, on peut dire, un jeune homme, encore un peu adolescent. Ça a dû être très très dur pour lui, ça l'a marqué énormément. Et il est très probable, c'est même, je pense qu'on peut dire que c'est une certitude, qu'il a voulu continuer, perpétuer la mémoire et l'action de son père. Et c'est pour ça qu'il s'est lui-même engagé dans ces mouvements-là. Quand mon fils est né, j'avais peur de le voir comme une reproduction de moi-même. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas et ça ne le serait pas. Et c'était une chance énorme, quoi.
C'était La Place du Père, reportage Alice Milo, réalisation Thomas Jost, attaché de production Isolde Sicard. Merci à Romain, Jérôme, Camille et Côme.